Nous avons cheminé avec Luc depuis un certain temps dans cet évangile. Nous avons pu découvrir, redécouvrir Jésus-Christ. Alors il reste un dernier bout de chemin à faire. Et ici dans le chapitre 24, on nous parle de la résurrection de Jésus-Christ, puisque le baptême est une image de la résurrection. Ce passage nous permet de rester dans le thème de la résurrection. Alors nous allons lire le récit d'une des apparitions de Jésus-Christ ressuscité à ses disciples, notamment celui qu'on trouve dans les versets 13 à 35. Luc 24, 13 à 35. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils n'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dans le cœur lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre à ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Voilà, Jésus sur le chemin d'Emmaüs, histoire bien connue. Je pense que c'est une de mes histoires préférées des évangiles, de l'évangile de Luc. Mais maintenant, après avoir étudié cet évangile avec vous, je pense honnêtement que c'est aussi une des histoires préférées de Luc. Un commentaire que je lisais a appelé ce récit le chef-d'œuvre de Luc. C'est peut-être beaucoup dire, mais ce récit est très important pour Luc. Dans ce récit, on retrouve les thèmes préférés de Luc qui sont regroupés. Vous savez, dans cet évangile que nous avons étudié depuis quelque temps, nous avons souvent vu Jésus en voyage, Jésus en visite, souvent en visite incognito. Tout cet évangile a tracé son voyage, sa marche vers Jérusalem, et puis vers la croix. Mais plus encore que ça, l'évangile raconte l'histoire de Jésus qui a fait le voyage jusqu'à notre monde. Dieu qui nous visite en Jésus-Christ, c'est le message de cet évangile. Et beaucoup n'ont pas reconnu ce voyageur, ce visiteur divin. Et là, on va retrouver un peu tout ça dans cette histoire, bien sûr. Nous avons aussi vu que dans cet évangile, que beaucoup des scènes importantes ont lieu autour d'un repas. souvent dans une maison, à table. Parce que surtout à l'époque, l'expression ultime de l'amitié, de la communion, de l'intimité, c'était manger ensemble, prendre un repas ensemble. Et c'est aussi le message de cet évangile que Dieu nous offre cette communion, cette amitié, cette hospitalité. Et bien sûr, on retrouve ici une scène à table. C'est le moment clé même du récit. Alors voyons encore ce matin, avant de quitter cet évangile de Luc, encore la beauté d'une rencontre avec Jésus-Christ, la possibilité de faire une rencontre avec lui sur le chemin de la vie, et rencontrer le vrai Jésus, le Jésus vivant, le Jésus présent dans notre vie, comme Rita l'a rencontré, comme nous tous, j'espère, nous l'avons rencontré. Nous allons voir plusieurs choses dans sur ce chemin d'Emmaüs. Tout d'abord, la conversation au chemin, ensuite l'explication de l'étranger, et enfin l'invitation à table. Voyons tout d'abord la conversation en chemin. Il est question de ces deux disciples, ils ne font pas partie des 11 apôtres, futurs apôtres, deux disciples, dont Cléopas, qui marche de Jérusalem à Emmaüs. 60 stades, ça fait à peu près 11 kilomètres, un peu moins. Donc ils ont le temps pour discuter des choses. Et le verset 15 dit qu'ils parlaient et discutaient. Alors normalement c'est deux mots pour dire la même chose, parler et discuter, c'est... Mais dans le grec, le deuxième mot est plus fort. Il parlait et il débattait, il parlait intensément. C'est-à-dire, c'était une discussion à la française. Chacun y va de son côté, chacun essaie de donner son point de vue, le sens de ce qu'il pense. Quand Jésus leur demande, notamment de quoi il parle, en verset 17, de quoi vous entretenez-vous en marchant, l'expression littérale qu'il utilise, c'est « Quelles paroles renvoyez-vous l'un à l'autre ? Quels mots jetiez-vous l'un à l'autre ?» C'est-à-dire se balancer des idées, se balancer des explications, des tentatives d'explication pour ceux qui viennent de vivre, pour expliquer le week-end passé, et puis au-delà de ça, tout ce qu'ils ont vécu ces dernières années. Là, c'est le dimanche, donc juste ce week-end a eu la crucifixion de Jésus-Christ. C'était un événement dramatique. Et cet événement a touché le fond de leur être. Donc, cette conversation en chemin, c'était juste, ils ne parlaient pas de la pluie et du beau temps. Ils débattaient quelque chose de profond. Vous avez tous remarqué, vous voyez deux personnes qui parlent. Vous savez si c'est une discussion... de la pluie et du beau temps, où vous pouvez discerner si c'est vraiment, il parle de quelque chose de profond, vous hésitez à interrompre parce que vraiment, il parle de choses sérieuses, de choses profondes, de choses personnelles. Et c'était plutôt une de ces conversations qui était en train d'avoir lieu sur ce chemin. Parce que dans tout ce qu'il vient de vivre, beaucoup de choses ont été chamboulées, ont été mises en question dans leur conception du monde et de la vie et de la religion et du Messie. Tous leurs espoirs étaient mis en cause. Toute leur expérience, leur vécu ces dernières années étaient mises en cause. Alors ils essaient de comprendre, ils essaient d'expliquer, ils essaient de donner un sens à tout ça. Alors on pourrait dire que cette conversation, c'était une conversation existentielle. Une conversation qui mélangeait politique et religion et vécu personnel et émotion. Et dans tout ça, ils essaient de trouver le sens. Ils essaient de comprendre. Et c'est à ce moment que Jésus les rejoint. Et pour l'instant, ce qui est important dans cette histoire, ils ne reconnaissent pas encore que c'est Jésus. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il y a encore des choses qu'ils vont devoir comprendre avant de reconnaître Jésus. Donc, nous on sait que c'est Jésus, mais il faut se mettre à leur place. Ils ne le savent pas encore. Et c'est ce qui rend cette histoire intéressante. Alors Jésus leur demande de quoi vous parlez-vous, de quoi vous entretenez-vous. Déjà, la question devrait nous arrêter un peu. Jésus n'a pas besoin de savoir de quoi il parlait. Jésus sait déjà. Donc ce n'est pas pour lui qu'il pose la question, c'est forcément pour eux qu'il pose la question. La réponse aussi est ironique. Ils disent... en verset 18, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui t'est arrivé ces jours-ci » Une autre traduction dit, es-tu le seul visiteur à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé? On se souvient, c'était à Pâques, donc la population entière du pays et d'autres pays, des juifs qui étaient là, donc il y avait plein de visiteurs à Jérusalem et visiblement tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Ce qui va rendre la prédication de l'évangile plus tard dans le livre des Actes fort. Tout le monde est au courant, tout le monde sait ce qui s'est passé. Les choses se sont pas faites en cachette, bizarrement. Tout le monde est au courant. Il demande, mais tu es le seul visiteur qui ne sait pas ce qui s'est passé? Alors le comble pour nous qui lisons cet évangile, nous reconnaissons que Jésus, il est le visiteur par excellence qui a débarqué à Jérusalem. C'est lui le seul visiteur en vérité qui sait ce qui s'est passé. C'est lui le seul visiteur qui sait qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Les autres ignorent ça pour l'instant. Donc une question ironique, tu es le seul visiteur qui ne sait pas ce qui s'est passé alors que là, il est le seul visiteur. Seul visiteur qui sait vraiment ce qui s'est passé. Et pourquoi? Et donc, mais il veut leur faire parler, alors il dit quoi? Et là, le détail, il s'arrête, ils sont en train de marcher, ils s'arrêtent, l'air attristé. Je pense que vous pouvez imaginer la scène, il parle en marchant, et là, c'est fort, c'est... Il pense à tout ça et il s'arrête à marcher, il se regarde entre eux. Et dans les versets 19 à 24, ils racontent un peu leur expérience, ils racontent leurs espoirs, leurs attentes, leur conception de comment les choses auraient dû se passer. Il y a des faits, il y a maintenant des rumeurs avec des femmes qui entendent quelque chose, mais on voit qu'ils n'accordent pas beaucoup de penser à de vérité à ce que disent ces femmes. Et dans ces paroles, on entend leur tristesse, on entend leur rêve brisé, on entend leurs incompréhensions. Nous espérions que ce soit lui qui délivre Israël, mais voilà 3 jours que les choses sont passées. Ça semble tomber à l'eau tout ça. Mais c'est Jésus qui leur fait parler comme ça. Jésus n'a pas besoin d'entendre ça, il connaît ce qu'il va faire, il connaît ce qu'il est, mais il les invite à exprimer leurs incompréhensions, leurs rêves brisés, leurs déceptions. Et je trouve dans cette conversation en chemin, on trouve justement le vécu humain. Cette conversation, c'est la même que toute personne réfléchie peut avoir à l'intérieur de lui-même. Parfois, sur le chemin de la vie, on est obligé de s'arrêter et faire le triste constat qu'il y a un décalage entre nos attentes, nos rêves et la réalité que nous vivons. Et on a du mal à intégrer tout ça, à réconcilier ce que j'espérais, ce que je voulais, ce dont je rêvais, puis ce qui m'est arrivé. On se rappelle que pour eux, cette attente d'un Messie qui devrait délivrer Israël, c'était au cœur de l'identité juive, c'était au cœur de ce qu'ils étaient, et maintenant ça tombe à l'eau. Peut-être vous, c'est comme ça, hein? Vous pouvez dire, j'ai toujours rêvé d'une vie de famille comme ça, et avec tout ce qui s'est passé. J'ai toujours rêvé d'un santé comme ça. J'ai toujours rêvé de la paix dans le monde comme ça. Et voilà, ça semble pas marcher. C'est-à-dire, pourquoi j'ai ces attentes, ces rêves, ces envies? Et pourquoi la réalité est si loin? Donc, dans cette conversation, ils sont obligés de raconter leur vécu. Et on voit que... Il leur manque un morceau du puzzle. Ils n'arrivent pas à intégrer leurs attentes et leur vécu. Mais justement, Jésus veut leur faire parler comme ça. Il voulait qu'ils arrivent à ce constat. Oui, il nous manque quelque chose. Il nous manque un morceau du puzzle. Et c'est pour ça qu'ils sont tristes. Parce que ça ne colle pas. La réalité ne colle pas avec... ce dont ils ont toujours rêvé, ce dont ils ont toujours voulu. C'est souvent la première démarche dans une rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ, c'est de lui exposer nos rêves, nos attentes, nos désirs, nos tristesses. Il sait écouter tout ça. Après, il va offrir l'explication. Une explication, c'est là, on va voir l'explication de l'étranger. Une fois qu'ils ont pu faire le constat triste, lui, il va prendre leur histoire, leur vécu, il va le placer dans la grande histoire. Il va le placer dans la vraie histoire de toute la Bible. Et finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il va leur donner les pièces manquantes pour réconcilier tout ce qu'ils viennent de vivre, pour les aider à comprendre, pour remplacer leur tristesse en joie. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait un survol de la Bible, un panorama de la Bible. Il leur fait une étude biblique. Peut-être là, ils ont repris la marche, certainement, puisque plus tard, ils vont arriver à destination. Mais pendant 11 kilomètres, on a du temps à parler, si on ne marche pas trop vite. Et il leur fait une étude biblique, et le verset dit qu'il commence avec Moïse, et dans toutes les Écritures, il explique notamment les choses qui le concernaient. Verset 27, « Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Pour l'instant, ce voyageur est toujours étranger, ils ne savent pas que c'est Jésus. Donc tout ce qu'ils reçoivent pour l'instant, c'est une étude biblique de quelqu'un qui semble bien maîtriser la Bible. Et Jésus raconte la grande histoire, le grand plan de Dieu, le plan de salut, en commençant avec Genèse, en passant par tout l'Ancien Testament. Quand il dit commencé par Moïse, ça veut dire Genèse, parce que c'est Moïse qui a écrit Genèse et les premiers livres de la Bible. Donc on sait qu'il a certainement parlé d'Adam et Ève, de la chute, le serpent qui allait être écrasé par la descendance d'Ève, mais en se passant, elle allait mordre le talon. Il a certainement parlé de Joseph aussi, qui est raconté par Moïse, l'histoire de Joseph. Comment il a souffert avant d'être élevé en gloire. Certainement parler de David, qui fait partie des prophètes, les psaumes. Donc il raconte l'histoire de Jésus dans toute la Bible. Et ça c'est fort. Une fois qu'il leur a posé, racontez-moi votre version des faits. Racontez-moi comment vous intégrez vos attentes et vos déceptions. Laissez-moi maintenant le faire. Il raconte la grande histoire de la Bible. Et nous apprenons par là que c'est l'histoire de Jésus, c'est la personne de Jésus qui est la clé pour comprendre tout, pour comprendre la Bible, pour comprendre le monde, pour comprendre notre vécu. L'histoire de la Bible qui parle de la chute, du péché, mais qui parle de la promesse, la restauration. L'histoire de la Bible qui parle de la souffrance, notre souffrance, mais aussi un Dieu qui décide de venir dans notre souffrance, de le porter pour le transformer en vie, en joie, en résurrection. Ça, c'est la grande histoire de la Bible. Et Jésus le leur montre un peu partout. Et dans sa version de l'histoire, il va bien plus loin que le leur. Eux, ils sont limités, il manquait un morceau du puzzle pour eux. Maintenant, il va leur donner. Et le morceau qui manquait, c'est lui-même, c'est son histoire, c'est la grande histoire du salut en Jésus-Christ. Parce qu'eux, ils avaient une vision limitée, c'est pour ça qu'ils sont tristes, ils avaient une vision limitée, et ce qu'ils viennent de vivre ne colle pas. Et dans leur vision limitée, la délivrance qu'ils espéraient, ce n'était qu'une délivrance politique pour Israël. Mais dans la grande histoire de la Bible, on ne parle pas juste d'une délivrance politique pour un pays. Ce que Dieu vise, c'est bien plus, il vise une délivrance éternelle, une délivrance du péché, une délivrance qui s'étend au monde entier. Mais pour opérer cette délivrance-là, il fallait un Messie qui soit non seulement fort, mais faible, non seulement vivant, mais qui meure à la place des pécheurs sur une croix pour les délivrer. Ils avaient une vision limitée, une délivrance limitée, un Messie limité. Ce que Jésus leur montre dans la Bible, c'est quelque chose de bien plus grand. Et avec cette clé, cette histoire bien plus grande, là, maintenant, c'est beaucoup plus facile à intégrer ce qu'il vient de vivre. Cette chose difficile, triste, la mort de Christ, ces premières rumeurs qu'il est vivant de nouveau, maintenant ça colle. Vous savez, moi j'ai souvent vu ça, j'ai vécu moi-même, mais je peux affirmer que l'histoire de la Bible, l'histoire de Jésus-Christ, c'est, je trouve, l'histoire qui résonne le mieux au plus profond de notre être. C'est l'histoire qui offre la meilleure solution à nos problèmes, nos déceptions, nos échecs. C'est l'histoire qui offre la meilleure réalisation de nos rêves, comme aucune autre vision du monde, aucune autre philosophie, aucune autre religion ne peut faire. L'histoire de Jésus, mort et ressuscité, résonne dans notre cœur comme vrai, comme la clé qui nous a toujours manqué. Et eux, ils commencent à goûter ça pendant cette explication de l'étranger, pendant ce bout de chemin, ils commencent à comprendre, parce que plus tard dans la journée, ils vont se rappeler, ils vont dire que le meilleur moment dans la journée pour eux, presque, c'était ce moment-là. Ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Ce cœur, ça commençait à résonner, à brûler dans le cœur cette histoire, ce panorama de Jésus-Christ. Cette explication-là, oui, ça résonne dans le cœur, ça explique tout, ça explique ce qu'ils viennent de vivre, ça explique la souffrance, les épreuves, les difficultés, la faiblesse, mais aussi les envies de nouveauté, de restauration, de paix, de joie. C'est Jésus qui était le morceau du puzzle qui leur manquait. Jésus expliqué dans toutes les Écritures. Et ça, c'est beau pour nous aussi. Ça veut dire que Jésus, notamment par sa résurrection, la résurrection signifie que toutes nos attentes les plus profondes seront un jour comblées. Mais mille fois mieux que vous l'imaginez, qu'on pourrait l'imaginer. Eux, ils avaient une attente d'un Messie qui délivre politiquement Israël. Cette attente était réalisée, mais mille fois mieux. C'était une délivrance bien plus grande et ils ont pu le découvrir eux-mêmes. Alors, vous aussi, l'amour dont vous avez toujours rêvé, vous l'aurez, un Christ, mais mille fois mieux que vous l'imaginez. Le corps dont vous avez toujours rêvé, vous l'aurez par la résurrection, mais pas pour les mêmes motivations, peut-être d'aujourd'hui, par la même manière que vous l'imaginez aujourd'hui, mais vous l'aurez. La famille que vous avez toujours voulu, les amitiés que vous avez toujours voulu, ces attentes seront comblées enfin dans la résurrection de Jésus-Christ, puisqu'il restaure, il apporte, il réalise ses rêves, les raisons pour lesquelles nous avons été créés, remontant à Genèse avec Adam et Ève, ce lieu de paradis. Ben, Jésus le restaure par sa mort et sa résurrection. Voilà ce que veut dire la résurrection. Vos attentes les plus profondes seront comblées si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, si vous comprenez cette grande histoire, ce qui s'est passé à la croix, ce qui nous attend lorsque Jésus revient. Et puis avant de passer à ce troisième point, une autre petite vérité que je retiens pour nous, qui pourrait nous encourager. Comme pour ses disciples, il y a des fois que Jésus marche avec vous et vous n'êtes pas au courant. C'est une belle vérité. Ils ont fait un bout de chemin avec Jésus. Ils ne savaient pas qu'il était là, mais il était là. Dans la vie, c'est souvent pareil. Il y a des fois où Jésus est à vos côtés. Il est en train de vous enseigner. Il est en train de vous expliquer. Il est en train de vous préparer pour la suite. Vous ignorez sa présence, peut-être, mais il est là. Peut-être encore ce matin pour vous. Alors voilà, il faut avoir cette conversation où on étale nos déceptions, nos conceptions de la réalité, notre vision du monde, pourquoi ça ne colle pas avec nos attentes. Il y a un cantique dans le petit recueil qui dit « Dis tout à Jésus, combien son accueil est doux ». C'est ce qu'ils ont pu faire ce jour-là. Ils ont tout dit à Jésus, leur vécu, leur expérience. Ils voulaient l'entendre de leur part pour ensuite répondre avec la clé qui leur manquait. Première étape, donc, c'est avoir cette conversation dans son cœur, avec un meilleur ami, avec quelqu'un, et expliquer, dire à Dieu ce que vous vivez. Ensuite, écouter l'explication de la Bible, l'explication des Écritures, pourquoi le monde est comme ça, pourquoi notre cœur est comme ça, pourquoi nos attentes sont comme ça. La Bible l'explique, la grande histoire de la Bible. Cassez votre histoire dans la grande histoire de la Bible. Mais il reste une étape, c'est l'invitation à table. Ils ont marché 11 km à peu près. Le soir approche. Ils commencent à être fatigués. Ils ont suffisamment vu et entendu de ce compagnon, ce voyageur, qui reste avec eux. Donc lui, il fait semblant de vouloir aller plus loin. Eux, ils arrivent à peu près à Emmaüs, peut-être. Et il invite, il demande, reste avec nous. Ils sont déjà un peu passionnés par ce qu'il a dit. Il commence à l'aimer vraiment. Et il demande, il l'invite, reste avec nous. S'il te plaît, reste avec nous. Et il le pressait même pour qu'il reste. Ce voyageur, cet étranger, leur a montré que toute la Bible parle de Christ, de Jésus. Déjà, ça les a passionnés, ça les a interpellés. Ça commence à donner un sens à leur vécu. Ça leur donne de quoi espérer même. Alors, il veut rester avec lui, il veut qu'il reste avec eux, reste avec nous, entre avec nous, entre chez nous. Et déjà, je pense qu'on a une belle image de la foi débutante en tout cas, qui commence à capter un peu, qui prend goût au message de la Bible et qui demande cette simple prière à Jésus, reste avec moi, entre chez moi, viens chez moi, je veux entendre plus, je veux savoir plus. Je ne te connais pas bien, mais reste avec moi. Et ici, Jésus accepte cette invitation de rester avec eux. Et donc, ils se mettent à table. Là, jusqu'à là, Luc fait durer le suspense. Hein. Mais là, on arrive au moment clé. C'est eux qui invitent Jésus à rester. C'est Jésus l'invité jusqu'ici. C'est lui le visiteur. Ils sont peut-être chez eux, puisque l'un d'eux habite à Emmaüs, ou bien ils sont chez un ami, ou bien peut-être dans une petite hôtellerie du coin, une petite auberge. D'ailleurs, Emmaüs, tout le monde connaît Emmaüs, l'organisme, le mouvement français, c'était commencé une auberge d'accueil, en s'inspirant certainement de cette scène. Et c'est la notion d'une auberge d'accueil, qui vivent ensemble ici. Donc, c'est lui l'invité dans, chez eux. Mais là, quelque chose de très fort se passe. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Vous voyez ce qui vient de se passer? L'invité devient l'hôte. Celui qui distribue le pain, celui qui rend grâce, c'est l'hôte, c'est pas l'invité. Et c'est à ce moment-là qu'ils reconnaissent Jésus. Peut-être jusque-là, ses mains étaient dans ses poches, derrière son dos. Ils le voient. Certainement, c'est plus s'il y avait une œuvre spirituelle, parce que la phrase dit les yeux s'ouvrirent littéralement, leurs yeux ont été ouverts. Et c'est ce que Dieu fait pour nous aussi. Il nous ouvre les yeux sur cet étranger et il devient. L'hôte qui nous accueille parfaitement. Et ce qui est fort, le verset, quand il dit, il prit du pain, il rend une grâce, il le rompit, c'est exactement la même phrase qu'on trouve en Luc 29, verset 19, je crois, pendant la première sainte scène. Bien sûr, ces deux hommes n'étaient pas là, ils ne faisaient pas partie des onze. Mais nous qui avons lu cet évangile jusqu'à là, nous savons ce qui s'est passé dans la chambre haute où Jésus a pris du pain, rompu, rendu grâce, distribué. Et trois jours avant, Jésus avait fait ce même geste, prenant du pain. Et là, il avait dit, ceci est mon corps, donné pour vous. voyez, c'est l'ultime geste de, d'accueil, d'hospitalité, d'amour, que d'offrir à ses disciples sa vie, que d'offrir à ses disciples ce repas, symbolisé par le pain et la coupe. Quand on était en Algérie, il nous racontait d'ailleurs que souvent les églises là fonctionnent par groupe de maisons parce qu'ils ne peuvent pas se réunir. Ils doivent rester plutôt en cachette, difficile à voir des bâtiments d'église. C'est assez compliqué, ils sont toujours à l'étape église de maison. Mais un grand défi pour eux, c'est d'inviter, accueillir des étrangers dans leur maison. C'est un geste encore plus fort, c'est très intime et ils doivent faire attention parce qu'ils ne connaissent pas toujours les étrangers, ceux qui viennent. Ils veulent être sûrs que ce sont des véritables frères et sœurs en Christ. Donc c'est, à la fois c'est très difficile de réunir dans un bâtiment, à la fois c'est très difficile de se réunir en église de maison, tellement le geste, la notion d'hospitalité, l'accueil est fort. Quelqu'un qui vient dans ta maison et quelque part, il entre vraiment dans ta vie. Il a accès à beaucoup de choses, je crois, il a accès à tout et ils hésitent à offrir un tel niveau d'accueil à des étrangers. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous offre ce niveau d'accueil, peut-être que nous ne mesurons pas tant comme eux à l'époque auraient pu mesurer, mais il nous l'offre par une grâce. Il nous offre une place à sa table dans sa maison. Et c'est ça qui est beau. Quand nous l'avons invité dans notre vie, quand nous lui avons dit « reste avec nous », eh bien, nous comprenons que c'est lui qui nous a accueillis. C'est surtout lui qui a ouvert sa maison, qui nous accueille, étrangers que nous sommes. Ça, c'est le message de Luc. Au début, Jésus n'avait pas trouvé de place dans l'hôtellerie à Bethléem. À la fin, Jésus trouve une place à Emmaüs, mais plus encore, plus fort que ça, c'est que les disciples, nous trouvons une place dans son cœur, dans sa maison. Et juste à ce moment, quand ils reconnaissent Jésus, Jésus disparaît de leurs yeux. Ah ! Il disparaît. Est-ce que ça les replonge dans la tristesse ? Non, ça ne semble pas les déranger. Je pense que Luc a raconté cette histoire pour nous. Parce que nous aussi, Jésus, en quelque sorte, a disparu de nos yeux. Mais ce n'est pas un sujet de tristesse pour autant. Parce qu'il nous a laissé les Écritures, comme eux-mêmes l'avaient. Ils pouvaient découvrir, redécouvrir Jésus dans les Écritures, tout comme nous. Il leur avait laissé son esprit. Donc, il était avec eux. Maintenant, ils vont pouvoir marcher ce chemin. Jésus disparaît de leurs yeux, mais il est là. Cette prière « reste avec nous » sera complètement, entièrement réalisée. Parce que Jésus est vivant. Et il est resté avec eux, même s'il a disparu de leurs yeux, il est resté avec eux à travers sa parole et à travers son esprit. Donc nous aussi, même si Jésus n'est pas devant nos yeux, nous pouvons avancer sur le chemin, sachant qu'il est là, il nous devance, il nous accueille, il marche avec nous. Et puis, je vous laisse avec un dernier petit détail. Ils avaient marché toute cette journée, 10-11 kilomètres, c'est assez loin. Ils arrivent à la fin de la journée, ils veulent s'arrêter, mais lui va aller plus loin. Mais non, on va s'arrêter, ça, on est arrivé au bout de notre... C'est la nuit, on est fatigué, on ne va pas aller plus loin. Mais juste après qu'ils entendent la nouvelle, qu'ils voient que c'est Jésus-Christ ressuscité, juste après qu'ils rencontrent Jésus-Christ, eh bien là, aucun problème, ils repartent le même chemin, cette fois-ci en courant. Première course de 10 km dans la Bible. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous connaissez, rencontrez Jésus-Christ ressuscité, ça vous donne une force nouvelle, une joie nouvelle pour repartir dans la vie, pour affronter l'avenir. Parfois, j'ai l'impression que l'été, c'est pour se reposer, mais on arrive à la fin de l'été, on est déjà fatigué, il faut attaquer la rentrée. C'était leur situation, ils avaient déjà tout fait. L'idée de retourner 11 km avant, ça aurait été impossible. Mais avec Jésus ressuscité, aucun problème. Peut-être que vous êtes arrivé à un moment dans votre vie, fatigué, épuisé, des attentes déçues, des déceptions. Vous dites, l'idée d'encore devoir aller plus loin, impossible. avec Jésus-Christ, rencontrez Jésus-Christ, ça vous donne une force nouvelle, et avec joie, vous reprenez le chemin pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Que Dieu vous bénisse. Prions.